Nous continuons donc la considération du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens et nous reprendrons la lecture au verset 26. Même s'il reste peut-être pour l'un ou l'autre quelques points à donner sur la fin du paragraphe 20 à 25. Donc 1 Corinthiens 14, verset 26. Qu'est-ce donc, frères, quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, à un enseignement, à une langue, à une révélation, à une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou tout au plus trois qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu, et que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. S'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Que les esprits des prophètes, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu est-elle procédée de vous ou est-elle parvenue à vous seul? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà donc, nous avançons dans ce chapitre 14 avec toujours cette pensée devant nous de l'édification, de ces réunions que nous avons, où nous ouvrons la parole, et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à travers cette parole pour nous enseigner, comme nous l'avons chanté dans notre cantique. Alors, l'apôtre et l'Esprit a conduit l'apôtre à écrire cette épître aux Corinthiens, une assemblée qui était riche en dons de la part du Seigneur, mais il fallait mettre de l'ordre. Il fallait que les choses se passent, comme on l'a lu à plusieurs reprises dans ces trois paragraphes, il faut que les choses se passent avec bienséance et avec ordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et donc il y avait ce parler en langue qui causait parfois des problèmes dans cette assemblée, chacun ayant une révélation, mais voilà, l'enseignement est donné, il faut que ceux qui écoutent comprennent ce qui est dit en langue. Si quelqu'un parle en langue et prophétise pour lui-même et que l'assemblée ne comprenne pas, alors cela n'était pas une action vraiment du Saint-Esprit. Et donc, tous ces points sont décrits un à un à travers ce chapitre. Et ici, eh bien, nous avons de nouveau cette expression dans le verset 26, « quand vous vous réunissez ». Et on sait qu'à travers cette épître aux Corinthiens, il y a à plusieurs reprises cette pensée, comme par exemple au chapitre 11 au verset 20, quand vous vous réunissez ensemble, avec à la note cette expression « ensemble en un même lieu ». Donc voilà, quand vous vous réunissez, eh bien, il y a cet ensemble qui est présent et il faut apporter ce que l'Esprit connaît comme besoin dans l'assemblée, et c'est sans doute un exercice, et il faut prier aussi l'un pour l'autre pour que l'enseignement qui est donné dans l'assemblée corresponde à un besoin. Non pas, on n'est pas là pour faire une démonstration de connaissance des choses du ciel, mais pour répondre aux besoins de l'assemblée lorsque nous sommes réunis ensemble. On peut dire aussi dans ces derniers versets du paragraphe précédent, où il est parlé de cet incrédule au verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre quelqu'un crédule ou quel comme simple ?» Il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. C'est une expression très forte. De dire, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui entre dans une réunion d'assemblée, qui entend parler un frère conduit par l'Esprit, cet homme est repris en lui-même. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Et il tombe sur sa face pour rendre hommage. C'est beau de voir, en effet, que la puissance de l'Esprit peut être grande lorsque nous dépendons tout à fait du Seigneur Jésus. Et que le Seigneur nous donne, en effet, de dépendre de lui dans toutes nos réunions, et particulièrement dans celle que nous appelons la réunion d'édification.
En effet, c'est très important que ces réunions qui sont dédiées à la parole de Dieu soient vraiment reçues et perçues comme étant la parole de Dieu et pas la parole de frère. Cette parole de Dieu dont il nous est dit en Hébreux 4, elle est opérante, elle est vivante, elle est comme une épée qui atteint jusqu'aux jointures de l'âme, hein, et de l'esprit. Et il ne faudrait pas que ce genre de réunion que nous avons régulièrement devienne simplement une routine où on a l'habitude de répéter des choses qu'on lit dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui soit présentée vraiment de la part de Dieu, par l'esprit. C'est très important. Et je pense que ce sera le cas pour si un inconnu ou un incrédule entre, comme on le lit là, mais ça doit être le cas aussi pour ceux qui s'y trouvent, qu'on ait l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Et à partir du verset 26 au verset 33, c'est un paragraphe qui concerne les frères. Il est dit là, qu'est-ce donc frère ? Quand vous vous réunissez, chacun de vous, etc. Parce qu'il s'agira dans ce paragraphe de l'intervention orale, en public.
On voit donc que la parole est précise, en effet. Qu'est-ce donc, frère ? Cette question est posée à nouveau à cette assemblée à Corinthe. Et elle peut nous être posée aussi si, justement, nous ne respectons pas cette action de l'Esprit. Et il est beau de voir chacun de vous. Il n'est pas indiqué quelques-uns ou certains, mais chacun des frères a un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation. On voit donc que l'Esprit donne différemment à chacun. Nous ne sommes pas, je me souviens des difficultés d'assemblée qu'on a connues il y a bien des années, où certains faisaient la réflexion, nous ne sommes pas des clones, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous exactement la même chose, à vouloir faire les choses de la même manière. Et c'est un fait qu'on voit, la parole l'explique elle-même, l'Esprit agit en chacun d'entre nous, en chacun d'entre les frères, pour apporter ce qui est nécessaire à l'Assemblée. Alors, un psaume, voilà. Les psaumes sont là pour aussi nous encourager. Il y a tant de psaumes que nous connaissons qui sont enrichissants pour nos âmes. On connaît les psaumes qui parlent des souffrances du Seigneur Jésus. On connaît les psaumes qui sont l'expérience de ses serviteurs que l'Esprit a conduit à écrire ces psaumes. David en particulier a écrit de nombreux psaumes qui sont touchants pour nous, pour nos cœurs, qui nous encouragent et qui nous exhortent. Et voilà, un psaume, c'est pas quelque chose de... ce n'est pas de la doctrine, c'est un enseignement qui vient toucher l'âme de chacun d'entre nous. Et donc nous devons nous laisser guider par l'Esprit si on va le dire sans doute... S'il y a quelques paroles, deux ou trois paroles, simplement deux ou trois mots qui peuvent être dits, ils peuvent être dits dans la simplicité, mais c'est surtout la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu qui est importante. c'est de respecter cette parole de Dieu, de la lire convenablement. On l'a lu, il faut que lorsque nous parlons, on parle distinctement. Il faut que l'expression de la lecture de la parole touche déjà l'âme, que ce ne soit pas quelque chose qui soit lu sans expression, on ne respecte pas les points, les virgules, les expressions plus fortes ou moins fortes. Non, il faut que chacun puisse sentir qu'il y a à travers la parole déjà quelque chose qui nous touche. Avant peut-être d'avoir alors une explication, quelque chose que le Seigneur a donné à un frère pour que tout le monde comprenne la portée des versets qui sont exposés.
Nos frères ont parlé un peu sur la façon de celui qui enseigne doit être conduit par l'Esprit et non pas apporter des choses connues comme Hervé vient de nous dire. Et je voudrais prendre aussi le contre-pied de cela. Si le Seigneur le permet, dimanche prochain, nous allons avoir Manuel Zeibel. Qui est-ce que je vais venir écouter ? Est-ce que je vais venir écouter le frère Manuel Zeibel, qui, nous savons, a une connaissance approfondie de la parole et sait bien l'expliquer ? Ou est-ce que je vais venir pour écouter ce que le Seigneur a à me dire par la bouche d'un frère de passage, quel qu'il soit, par la bouche d'un frère d'ici, quel qu'il soit. Et c'est l'exercice que nous devrions avoir à chaque réunion. Que le Seigneur nous persuade que la seule chose que nous avons à écouter et à entendre, c'est lui-même qui parle à notre cœur.
Donc ici, on voit que quand vous vous réunissez, chacun de vous, c'est beau de voir que chaque frère doit se sentir concerné et chaque frère, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de connaissance, doit se mettre à disposition du Seigneur ou de l'Esprit pour émettre quelque chose qui sera utile, édifiant pour les autres. Et ça n'a pas besoin d'être de grandes explications, on en a déjà parlé, ce n'est pas 10 000 mots, ça peut être 5 mots, dit avec sagesse. Ici, par exemple, c'est un psaume, c'est-à-dire une lecture. Il n'y a peut-être même pas de commentaire. Un frère peut se lever à la réunion d'édification pour faire une lecture et se rasseoir. Une lecture ou un enseignement. Une révélation qui vient de Dieu, évidemment. Ce ne sont pas des révélations en dehors des Écritures. Aujourd'hui, la Bible est complète. Nous n'avons pas à ajouter à la Bible. Ça, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une révélation, c'est-à-dire quelque chose que Dieu m'a montré au travers de ma vie et des Écritures qui peut être utile aux autres. C'est Dieu qui révèle quelque chose. Et justement, on a parlé tout à l'heure en disant chacun, c'est aussi la richesse qui fait que nous sommes tous différents et pas formatés. Nous ne sommes pas censés tous dire la même chose au même moment, de la même façon. Chacun, nous avons un vécu avec le Seigneur et c'est ça qui va transparaître. Le Seigneur nous enseigne au cours de notre vie et il nous fait des révélations. « Oh, je n'avais pas compris ce passage jusqu'à aujourd'hui et je me rends compte qu'il peut être utile aux autres. » Cette expérience-là. Donc c'est le travail du Seigneur qui fait des révélations. Et c'est ça la richesse. Et il faudrait que peut-être plus de frères s'expriment, parce qu'alors, même si un frère est intéressant, c'est toujours le même, on va dire, la même approche. Et alors c'est bien d'avoir des frères qui sont plus variés, on va dire, dans les expériences aussi. Plus sensible à tel sujet, plus sensible à tel autre sujet. Et on évolue, et chacun évolue. Et si on évolue avec le Seigneur, il n'y a pas de honte, au contraire, c'est utile de partager cela, pas pour parler de soi, mais pour parler de ce qu'on a compris avec le Seigneur. Et alors il est dit, donc, à la fin de ce verset 26, que tout se fasse pour l'édification, donc que ce soit une intervention très simple, Ou, plus élaboré, le but, c'est de partager et de partager une certaine connaissance du Seigneur à ceux avec qui nous nous réunissons.
Il est évident que on sent la responsabilité aussi que l'on a de présenter la parole. Et ça peut retenir parfois l'un ou l'autre frère en disant « ben voilà, je n'ai peut-être pas la capacité, je n'ai pas les mots justes, je n'ai pas cette éloquence, mais le Seigneur répond à tout. » Je l'ai déjà expliqué personnellement ce que le Seigneur a pu accomplir. Et je pense que, voilà, il faut le dire au Seigneur tout simplement, mais c'est lui-même qui va agir, c'est lui-même qui va donner cette capacité de pouvoir se lever et commencer, on l'avait lu dans les versets, dans le verset 19, « Mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence. » Comparaison avec 10 000 paroles en langue. 5 paroles, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et il vaut mieux parfois, justement, se lever pour lire un passage, comme on l'a dit, un psaume. Il y a un enseignement. L'enseignement, ce n'est pas nécessairement de la doctrine. Ce n'est pas nécessairement rentrer dans des choses difficiles. Il y en a dans la parole des sujets difficiles. Mais parfois, simplement, on l'a dit, et on peut insister sur ce côté, que justement, on a chacun une appréciation, et on peut, à travers un passage de la parole qu'un autre frère a peut-être déjà expliqué à plusieurs reprises, eh bien, il y a une pensée supplémentaire qui est dans le cœur d'un frère, eh bien, qu'il puisse l'exprimer aussi, un enseignement simple. On a commencé, celui qui a des enfants a commencé à la maison à pouvoir parler à ses enfants. Il y a sans doute d'autres moments où on peut parler à des enfants, à des jeunes. On a eu pendant des années l'école du dimanche et cela a permis aussi à certains frères de pouvoir apporter l'enseignement d'abord aux enfants séparément des réunions d'assemblée. Mais après, ils ont pu s'exprimer en assemblée, un enseignement. Alors, à une langue, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus cette puissance de l'Esprit qui agit, comme nous le voyons dans le début des Actes des Apôtres, où chacun comprenait les choses magnifiques de Dieu dans son propre langage. Et sans doute l'Esprit agissait ainsi parce que c'était nécessaire justement que cette connaissance de la Bible, de la compréhension de l'Ancien Testament, puisqu'à ce moment-là il n'y avait que l'Ancien Testament, puisse être révélée à tous ceux qui étaient présents, notamment à Jérusalem. Et donc il y a eu ce don des langues qui a été donné. Aujourd'hui, on sait que la Bible est traduite en de nombreuses langues et dialectes, et qu'à travers ce monde, eh bien, on peut le distribuer, et on fait encore énormément d'efforts d'ailleurs, pour que cette parole puisse être donnée à toute âme dans son langage véhiculaire, pour qu'ainsi il puisse aussi recevoir la connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Une langue, une révélation. Alors, cela fait penser à la prophétie, cette révélation. La révélation, ça peut être des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, dans notre vie d'assemblée, dans notre vie personnelle, dans les circonstances de ce monde, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Et il peut y avoir là quelque chose qui est donné. Le Seigneur a donné à un frère une explication, une révélation, des choses qui sont en train de se dérouler dans ce monde pour que nous puissions comprendre le pourquoi, à quel moment on se trouve. On le sait, on peut parler par exemple d'Israël et de toutes ces choses qui se déroulent dans ce pays et dans les pays environnants. Eh bien, peut-être justement un frère va recevoir du Seigneur l'explication des choses qui se passent et qu'il est placé sans doute à travers toute la prophétie qui nous est donnée et qui nous parle tant de tout ce qui concerne ce peuple d'Israël, ses fils d'Israël et ce territoire qui est tant convoité par tant de pays environnants.
Il me semble qu'il est encore possible aujourd'hui, dans certains cas, de parler, si quelqu'un a une langue, que ça pourrait encore s'appliquer. Imaginons par exemple un frère qui vient d'un autre pays, qui vient s'installer là et commence à vivre parmi nous, connaît pas encore le français, mais s'il a quelque chose à dire par l'esprit, s'il y a quelqu'un qui est capable de traduire, il ne faut pas le faire taire en disant « d'abord tu apprends le français et ensuite tu pourras t'exprimer ». Il ne faudrait pas exiger ça d'un frère étranger si quelqu'un dans l'assemblée est capable de le traduire. Il ne faudrait pas non plus que ce frère se censure lui-même en disant « tant que je ne parle pas leur langue, je ne vais rien dire ». Encore une fois, si quelqu'un est capable de traduire, que ce frère qui parle une autre langue se sente libre par l'esprit d'apporter quelque chose pour l'édification de l'Assemblée. Donc il ne faudrait pas qu'on mette des obstacles culturels si le cadre biblique est respecté.
Tout se fasse pour l'édification. Alors l'édification, c'est l'accroissement. C'est bâtir quelque chose et de le construire, d'avancer dans les choses de Dieu. Alors ce n'est pas obtenir une grande connaissance de toute la parole, mais c'est individuellement d'avoir alors ce travail intérieur qui nous permet alors de vivre davantage affermi, de vivre davantage selon ce que le Seigneur nous demande, peut-être dans l'évangélisation, peut-être dans le service vis-à-vis des frères et sœurs, peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être, voilà. Il y a tant de choses à accomplir dans l'Assemblée et que toutes choses se fassent pour l'édification. On reçoit un enseignement et cela nous touche et nous montre peut-être le chemin dans lequel nous avons à marcher. Conduit par l'Esprit, conduit par le Seigneur, que tout se fasse pour l'édification. Ce n'est pas simplement, ici, dans l'édification, ce n'est pas simplement le fait de la connaissance simple et pure. C'est le travail intérieur qui se réalise dans chacun pour qu'il puisse être une aide à travers l'Assemblée, à travers le corps tout entier. Et pour celui qui se tourne vers l'évangélisation, eh bien, c'est la présentation de cette bonne nouvelle du salut à une âme qui ne connaît pas encore le Seigneur pour sauveur.
Je pense en effet, c'est très important de bien définir l'édification, parce que, surtout quand on est jeune, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que moi je peux apporter? Ils sont tous plus âgés que moi, ils en savent tous plus que moi, donc je vais me taire. L'édification, ça ne veut pas dire ajouter quelque chose que les autres ne connaissent pas. L'édification, la prophétie, c'est dire quelque chose au moment donné. Que ce soit quelque chose de connu ou pas encore par l'audience, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que c'est Dieu qui veut dire ça. Et c'est tout. Parce qu'on pourrait se dire, tant que je n'atteins pas un tel niveau, alors je ne suis pas capable d'édifier. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question de niveau de connaissance. C'est une question, en fin de compte, de se laisser diriger par l'esprit, dans l'humilité. Et voilà, quand il est dit quelqu'un a ceci ou a cela, ce n'est pas de lui-même ou en lui-même, c'est qu'il a reçu. Et puis, ce serait dommage de se censurer en se disant... je ne suis pas assez créatif ou je n'ai pas des choses nouvelles à expliquer, etc. Non, on a besoin simplement d'un message simple et qu'on comprenne que c'est Dieu qui nous parle. Et puis là, verset 27, donc il est toujours question de parler en langue, donc il n'est pas interdit de parler en langue, des langues existantes, puisqu'il y a un traducteur, mais il y a un mode d'emploi qui est clair. Voilà, que ce soit deux ou trois, un après l'autre et pas tous en même temps. C'est justement les débordements qu'on voit souvent dans la chrétienté, c'est que tout le monde parle en même temps et qu'il y a de la confusion. Mais la Bible a déjà prévu cela en disant deux ou trois, successivement, avec un traducteur. Sinon, qu'il se taise. C'est simple.
Non, je dirais par expérience, deux ou trois, il ne s'agirait pas non plus de compter. Je vais citer des cas. Deux jeunes frères se lèvent pour lire un psaume, pour donner un enseignement simple. Et puis un troisième, peut-être plus âgé, dit encore quelques mots. Et puis, la réunion commence à 4 heures, il est 4 heures et demie, et les trois ont parlé. Et on va dire, la réunion est finie. Non, j'ai connu ces cas dans d'autres assemblées, où c'est pas pour ça non plus qu'il faut attendre. On a décidé que la réunion finirait à 5h30, par exemple, si elle a commencé à 4h, comme on le faisait autrefois, de dire on va parler jusqu'à 5h30 parce qu'il faut occuper le temps. Ce n'est pas vrai non plus. Mais je voulais dire par là que le 2 ou 3 n'est pas une règle absolue qu'il faut dire comme une comptabilisation que l'on ferait. Par expérience, j'ai vécu des réunions où on a eu 5 frères qui se sont levés, différents, et qui ont apporté quelque chose, un enseignement qui était très intéressant à entendre. Et la réunion n'a pas duré jusqu'au bout du temps qui était prévu. Et donc, tout doit se faire pour l'édification. Donc, chacun doit se sentir libre et conduit par l'esprit, poussé même par l'esprit, pour se lever et pour le dire. Maintenant, il y a aussi la contrepartie. Jacques disait « je prends le contre-pied » et il y en a un ici aussi. Ça veut dire aussi que les deux ou trois qui vont se lever ne doivent pas parler pour occuper le temps. Même si les choses sont très intéressantes, très profondes, il faut dire ce que l'on a à dire et puis quand on a fini de dire ce que l'on a à dire, on s'assied, tout simplement. Et peut-être alors, justement, la bouche s'ouvrira pour un autre pour parler. On a bien sûr connu des frères qui savaient se lever quand on avait les réunions à 4 heures, à 4h10 ou 4h15, et qui s'asseyaient à 5h15. Ils parlaient pendant une heure. Ce ne sont pas des règles absolues, bien au contraire. C'est parfois plus enrichissant, justement, comme il est dit ici, un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation. La variété, on l'a déjà dit, la variété des intervenants et des sujets qui sont présentés apporte justement de l'édification à l'Assemblée.
Je pense qu'il est aussi très important que les frères qui s'expriment publiquement ne soient pas susceptibles. Je veux dire par là, ne soient pas centrés sur eux-mêmes, puisqu'ils le font pour l'édification. Et que si un frère, par exemple, prend une partie de la réunion pour exposer un sujet après une lecture, puis se rassied, puis que le frère suivant se lève et continue ce même message ou dans la même ligne, il y a parfois des frères qui sont vexés en pensant que c'est un reproche. Il aurait aussi dû dire cela et cela qui n'a pas été dit, etc. C'est dommage, parce que de toute façon, toute lecture ou tout passage biblique est beaucoup plus riche et beaucoup plus grand que n'importe quel frère qui pourrait y réfléchir ou en exprimer quelque chose. Et si c'est fait pour l'édification, c'est bon qu'on entende peut-être des pensées supplémentaires sur un même passage. Il ne faut pas non plus que le frère se sente vexé parce que le frère qui suit prend un autre passage avec un sujet différent, en disant « c'est un reproche, ça veut peut-être dire que je n'aurais pas dû parler de cela ». Non, je pense que l'esprit peut diriger pour un message et puis diriger un autre frère dans la continuation du même message ou de changer de message parce que l'audience elle est variée aussi. Et voilà, il y aura un message qui parlera plus, un message qui parlera peut-être moins pour chacun, mais il y en aura pour tout le monde. Et peut-être c'est aussi nécessaire que j'entende deux messages différents. Donc il faut vraiment que ce soit l'esprit qui dirige et pas se mettre au centre en tant que frère qui s'exprime, se mettre au centre de ce qui se passe là.
Alors le verset 29 nous montre encore un autre aspect de cette présentation de la parole, que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les autres jugent et à la note discernent. Donc il peut y avoir plusieurs qui s'expriment, et puis ceux qui sont assis, c'est pas simplement, je vais dire, permettez-moi l'expression, avaler tout ce qui est dit, il y a une responsabilité aussi dans ceux qui sont assis, eh bien, que les autres jugent, discernent, comprennent les choses qui sont dites. Et là aussi, il y a un travail personnel. Le prophète annonce ce que Dieu lui a dit d'annoncer, et ce qui est annoncé va peut-être avoir un impact différent dans les âmes qui écoutent. Tout le monde ne percevra pas nécessairement la même chose à travers ce qui est exposé par un, deux ou trois frères. Et voilà donc que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les autres jugent. Il y a donc une responsabilité de chacun de comprendre, de discerner, le mot est bien là, de discerner ce qui vient d'être dit pour soi-même d'abord, de commencer à se dire, ben voilà, la parole de Dieu me parle, et donc je dois comprendre ce qu'elle me dit à moi personnellement. Et puis aussi, bien sûr, il peut y alors avoir cette compréhension de quelque chose qu'on ne connaissait pas, et ça va peut-être permettre ensuite d'avoir des conversations intéressantes avec d'autres âmes, frères ou sœurs ou enfants, ou voilà, avec d'autres âmes, pour justement, alors, ayant discerné la parole de Dieu, eh bien, partager ces enseignements que l'on a reçus. Il y a ceux qui parlent, et puis il y a ceux qui sont assis et qui discernent, qui jugent. C'est important. Chacun participe à cette édification.
Il y a donc ceux qui parlent, en général ils se lèvent pour parler, il y a ceux qui sont assis, qui écoutent, mais celui qui parle n'est pas toujours celui qui est debout. Parfois il est debout, parfois il doit être assis aussi. C'est ce qu'il dit là, c'est que si un frère est dirigé pour parler, qu'il se lève, qu'il donne son message, mais il faut aussi qu'il soit dirigé pour se taire et se rasseoir, parce que l'Esprit donne la relève à un autre. Alors, je ne sais pas forcément qui sera le suivant, mais je n'ai pas besoin de le savoir quand je me lève. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que l'Esprit me dit maintenant, ça suffit. Et ça, c'est une dépendance très importante pour un frère, pas seulement d'être dépendant pour se lever et se lancer dans le message, mais aussi pour mettre un terme au message, même si l'heure n'est pas terminée, pour se rasseoir. C'est ce qui est écrit là, hein, au verset 30. « Et s'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. » Et au verset 31, on voit que le but, c'est que tous, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Tous. Tous, ça inclut l'audience, tous ceux qui restent assis, mais ça inclut aussi ceux qui se lèvent et qui s'assiedent.
En effet, dans ce verset, on voit que tous peuvent prophétiser, mais tous apprennent et tous sont exhortés. Voilà, on doit donc garder cette humilité, même si on a peut-être beaucoup de connaissances, ou si avec la diminution des présences dans les assemblées, voilà, il y a souvent les mêmes personnes que l'on entend. Il faut là aussi garder cette humilité, parce que si on prophétise, si on peut discerner à travers la parole, les enseignements qui doivent être donnés dans les circonstances de l'Assemblée, c'est toujours cela qui est intéressant avoir. Il y a de la connaissance à apporter pour comprendre la pensée de Dieu. Et puis, il y a dans cette connaissance la portée qu'elle donne dans les circonstances vécues à ce moment-là. Prophétiser. Mais alors, nous avons à apprendre. Et donc, qui que ce soit et à quelque âge que nous soyons, sans doute les plus jeunes apprennent beaucoup, mais les plus âgés peuvent encore apprendre à travers la lecture et la méditation de la parole. Et puis, aussi que tous soient exhortés. Alors, dans les tous, évidemment, on parle des frères ici, mais on peut sans doute étendre la pensée à toute l'Assemblée. Il n'y a pas que les frères, il y a bien sûr les sœurs aussi qui sont concernées par cette pensée d'apprendre et d'être exhortées. On va parler des sœurs dans le paragraphe suivant, les versets 34 et 35. Je peux déjà dire qu'à travers ces expressions, elles sont aussi concernées, mais elles sont concernées dans des cas, je vais dire, plus restreints. C'est-à-dire pas dans l'Assemblée, pas quand les frères et les sœurs sont réunis ensemble. Mais il peut y avoir des moments, et ça a existé d'ailleurs dans certaines régions et dans certaines assemblées, où les sœurs pouvaient se réunir, parfois pour des choses plus matérielles, mais aussi en même temps, elles pouvaient elles-mêmes s'encourager, s'exhorter, échanger des pensées de la parole. Évidemment, ça ne se fait pas dans la réunion d'assemblée. Mais ces expressions de prophétiser, d'apprendre et d'être exhorté, cela concerne chacun, homme et femme, et enfant bien sûr.
Verset 32, les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. C'est aussi un aspect très important. On pourrait dire... Il y a la direction du Saint-Esprit, mais il y a aussi le sens commun. Et voilà, il faut que nous gardions, on va dire, le contrôle de nous-mêmes et de ne pas commencer dans des discours interminables, par exemple, où on en arrive à parler plus qu'avec des paroles qui débordent de la pensée au point que c'est plus que la pensée. Je pense qu'il y a du sens commun en se disant voilà, il y a quand même, c'est pas des règles mais des lignes directrices de sens commun à respecter, et que chaque prophète, chacun qui s'exprime de la part de Dieu doit rester lucide quant au contexte de l'audience et savoir que bon, maintenant il est temps d'arrêter de parler aussi. Par exemple, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Cette expression a parfois été employée aussi quand il y a des sujets plus difficiles et on peut dire deux pensées sont exprimées qui ne sont pas en pleine concordance, pourrions-nous dire. Et donc, on dit souvent dans ces cas-là, l'un a exprimé une pensée, l'autre a exprimé une autre pensée, les esprits des prophètes sont soumis, les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Chacun a reçu une interprétation, c'est ce qu'on a dans le dernier verset. L'interprétation, ça peut être une langue qui est interprétée, mais ça peut être aussi la compréhension de passages difficiles, notamment dans la prophétie proprement dite. Quand on est dans la prophétie de l'Ancien Testament, parfois, on a une compréhension, un autre a une autre compréhension. On laisse la chose devant le Seigneur, et sans doute nous en donnera-t-il la révélation. Elle nous sera donnée lorsque nous serons tous ensemble dans le ciel. À ce moment-là, on comprendra toutes les choses que la parole renferme et que nous n'avons pas comprises maintenant. Mais les esprits des prophètes, c'est-à-dire la pensée de chacun qui peut prophétiser, et nous voyons que tous peuvent prophétiser. Donc chacun peut avoir une interprétation de la parole. Évidemment, il ne faut pas apporter des enseignements qui pourraient être contraires à d'autres choses qui sont exprimées dans la parole. Il faut rester, bien sûr, dans le cadre de la pensée de Dieu. Il ne faut pas apporter de choses nouvelles qui pourraient alors apporter du trouble. Mais les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Ça veut dire que chacun aussi doit comprendre qu'un autre a reçu quelque chose de la part du Seigneur qui est différent de ce que j'ai reçu personnellement.
À partir du verset 34, il est question des femmes qui se taisent dans les assemblées, c'est-à-dire dans les réunions d'assemblées. Alors, se taire, ça veut dire ne pas prendre la parole, parce qu'elles peuvent chanter. Elles chantent. Ça, c'est, on n'empêche pas les sœurs de chanter. Mais donc, se taire, ça veut dire ne pas prendre la parole, ne pas prendre l'initiative, qui est une certaine forme d'autorité. De ne pas prendre l'initiative, de parler au nom de Dieu, là où il y a l'assemblée réunie et où il y a donc des hommes et des frères. Donc c'est un enseignement clairement établi, et ce n'est absolument pas dégradant, puisque c'est la pensée de Dieu. C'est l'ordre de la création, c'est comme ça que Dieu décide que les choses se passent dans la paix et pour l'édification. Acceptons-le. Parfois, on entend certaines femmes dans la chrétienté qui ne sont pas d'accord. On entend aussi beaucoup, mais j'ai entendu aussi plus d'hommes qui ne sont pas d'accord avec ce passage, pour différentes raisons. Mais voilà, que chacun prenne ses responsabilités. C'est la responsabilité des frères d'apporter l'enseignement dans l'assemblée réunie. Que les frères prennent leurs responsabilités et n'essayent pas de repousser cette responsabilité sur les femmes qui ont un autre rôle.
On a l'explication de cet ordre dans le chapitre 11, au verset 8 et suivant. 1 Corinthiens 11, verset 8. « Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme procède de l'homme, mais la femme de l'homme. » Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Alors voilà, l'homme procède de Dieu, et Dieu créa l'homme. Et on sait que dans ce chapitre 2 de la Genèse, l'homme a d'abord donné toute chose à tout ce qui passait sous ses yeux de la création, Et Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui donne donc la femme. Et donc la femme procède de ce besoin de l'homme. Et donc c'est bien cet ordre de la création qui est devant nous lorsque les versets 34 et 35 nous sont donnés. Mais je reviens dans la même pensée au verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et là, il faut faire très attention, justement, parce qu'on a tendance à transformer parfois en disant « oui, mais c'est un ordre ». Non, ce n'est pas un ordre, c'est la recherche de la paix. C'est la recherche de la paix dans le sens où on obéit à la parole, on se soumet à la parole, on se soumet à la pensée de Dieu, à la pensée du Seigneur. Et là, ça apporte la paix. Par contre, si on ne respecte pas ces enseignements, on amène le désordre. Et Dieu ne peut pas accepter le désordre. Voilà le sens dans lequel les choses se produisent. Il n'est pas dit « Dieu est un Dieu d'ordre ». Voilà, j'exige les choses comme ceci ou comme cela. Il y a l'exercice, la responsabilité de l'homme et de la femme quant à la parole de Dieu et quant à son application dans la vie de chacun et particulièrement dans la vie d'assemblée. Et donc voilà, ce chapitre 11 nous montre... l'autorité qui est l'homme est soumis à Christ et la femme est soumise à l'homme, eh bien, ici, nous devons respecter ces choses pour ne pas créer le désordre. Alors, la femme alors, peut interroger, en effet, leur propre mari et comprendre les choses qu'elles ne comprennent pas. On y ajoute souvent que celles qui sont seules peuvent, bien sûr, interroger l'un ou l'autre frère pour avoir une explication, pour avoir un encouragement, pour avoir une réponse à des questions qu'elle se pose. Les frères sont aussi là pour justement, dans le particulier, pouvoir répondre à des questions. Et je dis bien dans le particulier parce qu'il y a des questions qui ne doivent pas être révélées, tout simplement. Des femmes peuvent avoir des questions à poser, et parfois des frères peuvent poser des questions ou donner une information à un autre frère qui ne doit pas nécessairement, le lendemain, être partagé par tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui. Il peut y avoir, en effet, là, dans cette part de Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il y a aussi cette part des choses que l'on doit partager l'un avec l'autre et d'autres informations que l'on doit parfois garder sur son cœur et pouvoir simplement partager avec une seule personne parce que les choses doivent être mises devant le Seigneur Jésus et pas à la portée de tous.
Alors ensuite, dans le dernier paragraphe, il est bien indiqué qu'il faut reconnaître que ces choses écrites sont le commandement du Seigneur. Voilà. Il faut reconnaître, il faut admettre, il faut accepter que ce n'est pas comme ça que nous aurions fait, mais c'est comme ça que Dieu le décrit. Et que la sagesse de Dieu, elle est plus grande que la nôtre. Et que c'est pas que la sagesse, Dieu sait comment, on va dire, mettre de l'ordre ou maintenir la paix. Il le sait. Et donc, il nous donne ces instructions qui vont à l'encontre de notre cœur naturel ou de nos tendances naturelles. Mais pour le nouvel homme, pour le Saint-Esprit, ces choses sont naturelles. Eh bien, il faut reconnaître que c'est le commandement du Seigneur. C'est donc la parole du Seigneur, de celui qui a autorité. Et nous devons vivre et pratiquer notre vie chrétienne, individuellement ou en assemblée, dans la crainte de Dieu, dans le respect. La crainte de Dieu, c'est le respect de ce qu'il dit, sans contester.
Donc, ce verset 37, en effet, si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, 1 Jean 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. C'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Il y a donc, justement, dans ces prophètes, il y a ceux qui viennent avec toutes sortes de nouveautés, toutes sortes d'enseignements, et on voit que s'il y a l'Antichrist qui va venir lorsque l'Église sera enlevée, Jean pouvait déjà dire, alors que voilà, il était encore là présent au milieu des assemblées, sans doute on pense que c'est l'apôtre qui a vécu le plus loin dans le temps, mais il dit il y a plusieurs antichrists. Il y a donc des personnes qui annoncent des choses qui ressemblent à la vérité et qui ne sont pas la vérité. Des choses qui sont agréables à entendre, peut-être, mais qui ne sont pas la vérité. Et ces âmes entraînent d'autres âmes, on le voit, ils ont été manifestés comme n'étant pas des nôtres, ça veut dire de ceux qui croient au Seigneur Jésus, et qui ont entraîné des personnes avec eux dans toutes sortes de dérives et d'explications qui ne sont pas selon la parole. Et donc, voilà. Et on s'adresse aux petits-enfants dans ce passage. C'est donc dès le plus jeune âge qu'on doit connaître et on doit être comme des petits-enfants, c'est-à-dire comme ceux qui écoutent, qui entendent et qui obéissent à la parole de Dieu. Non pas comme des adultes avec des pensées qui peuvent se développer, avec des argumentations qui peuvent être données, mais de répondre simplement. Voilà. Et le Seigneur lui-même, dans les évangiles, nous le savons, on empêchait d'apporter les petits-enfants au Seigneur et il a dit « Ne les en empêchez pas, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. » Voilà, parce qu'on comprend les choses simplement. Et donc il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes qui enseignent des choses qui ne sont pas convenables. Eh bien, nous devons alors reconnaître que les choses qui sont écrites sont le commandement du Seigneur et ne pas se laisser emporter, comme il est dit dans un autre passage, par tout vent de doctrine.
Et puis ce chapitre se termine avec ces versets encore frères. Donc c'est un appel, on va dire, fraternel, avec de l'amour, désiré avec ardeur de prophétiser. On pourrait dire en d'autres termes, ayez ce désir avec zèle de parler de la part de Dieu. Non pas de parler en votre propre nom ou pour votre propre intérêt, c'est vraiment prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, de simples messagers. Et au verset 40, il dit, encore une fois, mais que toute chose, mais, parce qu'il y a ce danger toujours de prendre la parole pour insister sur ses propres points de vue ou ses propres opinions, mais non, il s'agit de prophétiser, de parler de la part de Dieu, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre.
Voilà, mais en terminant ce chapitre, on peut rappeler sans doute trois pensées qui sont placées devant nous. Que tout se fasse pour l'édification. C'est donc bien le fonctionnement de l'Assemblée qui doit se faire pour l'édification. Le verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. » Donc Dieu veut la paix dans les assemblées. Et enfin ce verset 40, « Toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre. » Et là, nous avons à être exercés par ces expressions parce que nous devons le dire en baissant la tête, dans nos assemblées, il y a parfois eu ce manque de discernement dans les choses et dans ces enseignements que Dieu nous a donnés. Alors qu'il nous garde et qu'il nous donne de pouvoir nous tenir devant lui et de recevoir les choses comme étant celles que le Seigneur enseigne, même si parfois nous avons tendance à pouvoir biaiser par la difficulté peut-être, par le découragement, mais que le Seigneur nous donne de pouvoir rester ainsi ferme dans la connaissance des choses qui sont exprimées dans la parole.